des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Qui avait déjà lu le récit de la naissance de Jésus? Il y en a? Voilà. Sinon, eh bien ce soir, vous avez appris quelque chose de merveilleux. Comment ça s'est passé la nuit, le moment, les premiers mois peut-être, les premiers temps de la vie de Jésus? Jésus est né à Bethléem, au temps du roi Hérode. Il y a au loin des mages qui sont là et qui commencent à venir à Jérusalem puisqu'ils ont vu une étoile qui était prophétisée dans le livre de Daniel des centaines d'années avant. Voici, il y aura une étoile et quand il y aura l'étoile, il y aura le Messie, le Sauveur. Il y aura quelqu'un qui sera là, l'envoyé de Dieu. Et alors ils sont venus voir le roi des Juifs et alors qu'ils s'approchent, et voilà qu'ils arrivent à Jérusalem, ils interrogent Hérode et tout Jérusalem et Hérode sont surpris. Ils se renseignent d'où doit venir eh bien, ce sauveur, ils envoient les mages, et les mages vont, l'adorent, et repartent ensuite par un autre chemin, parce qu'ils savent, par Dieu, qu'il ne faut pas aller revoir Hérode, qui, lui, veut faire tuer ce petit enfant. Dans ce résumé que j'ai fait, je viens de reciter 5 choses importantes pour nous ce soir. J'appellerai ça 5 noms de Jésus. 5 fois où il est parlé de Jésus avec un attribut particulier. Il y a premièrement Jésus, donc son prénom. Il y a le roi, il y a le chef, quand on parle de Jésus, il y a le Messie, et il y a le petit enfant. 5 manières différentes d'appeler Jésus dans 12 versets. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Moi, je n'ai jamais fait gaffe, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui. Eh bien que dans si peu de textes, dans 12 versets, il y avait 5 manières d'appeler différentes Jésus. Jésus, le roi, le chef, le Messie et le petit enfant. Et on va voir ça ce soir, 5 points, ça ne va pas être très long, mais 5 points qui nous parlent de la personne de Jésus. Parce que si on est là ce soir, on est tous d'accord, c'est dans le nom de Jésus. On n'a pas raison d'être dans ce lieu si on fait abstraction de la personne de Jésus. La personne la plus importante ce soir, c'est le Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, je souhaite qu'en partant d'ici ce soir, vous le soyez tous. Première chose qu'on remarque, Jésus, ce prénom qu'on entend souvent, dont on entend parler, qu'on fête à Noël, sa naissance, Jésus, on l'entend beaucoup, on se moque de Jésus, on parle de Jésus, on entend beaucoup parler, mais en fait, est-ce qu'on le connaît vraiment? Premièrement, Jésus, que veut dire le prénom Jésus? C'est un prénom hébreu et vous savez que les prénoms ont une signification. Savez-vous ce que veut dire Jérémie, mon prénom? Dieu l'élèvera. C'est un beau prénom, ça. C'est pas prophétique. Mais est-ce que vous savez que les prénoms ont une signification? Vous savez, si vous étiez parent, vous le sauriez. Parce qu'on est là, quand on choisit les prénoms, qu'est-ce que ça veut dire le prénom? Des fois, on s'enquiert et tout, etc. Les prénoms ont une signification. Ils viennent d'une racine, d'un mot quelque part, etc. Et on s'encaisse, on se jette sur les définitions, les significations des prénoms. Quelquefois, on choisit parce que ça nous plaît. Mais dans la parole de Dieu, le nom de Jésus n'est pas un prénom pris au hasard. Jésus veut dire « Dieu sauve ». Dieu sauve. Saviez-vous que Jésus, venu sur terre, c'est Dieu qui est venu sauver? Est-ce que vous saviez cela? C'est très important pour vous, Jésus, c'est un inconnu. Un homme un jour a écrit, un pasteur, un confrère a écrit ce livre. Jésus, ce célèbre inconnu. Jésus, ce célèbre inconnu. Et c'est vrai, on en parle tellement, mais on le connaît si peu. Et pourtant, il veut dire Dieu sauve. Connaissez-vous ce sauveur? Jésus est-il votre sauveur? Jésus n'est pas venu par hasard ou par erreur sur la terre. Ce n'est pas que, soi-disant, ses parents l'aient voulu. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est né d'une vierge, qu'il est né de Marie. Et je ne cherche pas à vous convaincre. La parole est la vérité. Et c'est en croyant qu'on parvient au salut. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. C'est ce que Dieu dit. Et on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Jésus n'est pas venu de la relation d'un homme et d'une femme. Jésus n'est pas venu par hasard, ni par erreur, ni par pur loisir, ni par curiosité pour venir visiter la terre. Mais il est venu pour me sauver et pour vous sauver personnellement. Toute l'humanité dans son ensemble, mais aussi personnellement, parce qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu personnellement. Et Jésus est venu pour nous sauver. Jean-Baptiste, lorsqu'il verra Jésus, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Parce qu'on pourrait dire « Mais sauver de quoi ?» Eh bien, sauver des conséquences du péché. Sauver des conséquences de notre iniquité, de nos injustices, de nos erreurs, de nos fautes, peut-être de notre rébellion, de notre méchanceté, de notre mensonge, de notre adultère et toutes les choses qu'on pourrait rajouter. Toutes ces choses, alors que ça paraît anodin, à nos yeux peut-être, aux yeux des autres, puisque tout le monde le fait, aux yeux de Dieu, toutes ces iniquités, tout ce péché, toutes ces injustices, toutes ces choses ont une conséquence jusque dans l'éternité. Et déjà, dès aujourd'hui, il nous sépare de Dieu. Saviez-vous que quand on ment, on se sépare de Dieu? Parce que Dieu n'approuve pas le mensonge. Le péché met une séparation entre nous et Dieu, et cette séparation est effective sur la terre, mais elle a un impact aussi jusque dans l'éternité. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre un temps et puis mourir et disparaître. Il a créé l'homme pour qu'il se prépare sur cette terre à passer l'éternité, plus tard, de préférence dans le ciel. Mais la Bible nous parle aussi du ciel et d'un endroit qu'on appelle l'enfer. Et parce que Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer, parce que Dieu nous aime et qu'il ne nous a pas créés pour ça, il a envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Jésus a-t-il ôté le péché de ton cœur et de ta vie, ou tardes-tu encore pour les lui confesser et pour les rejeter, ces péchés? Est-ce que Jésus a pu, parce que tu as cru en lui, retirer, laver le péché de ton cœur, retirer le péché de ta vie, te donner la capacité de résister à toutes les tentations qui sont là pour te perdre? Est-ce qu'il a pu le faire, ou est-ce que tu résistes encore à l'appel de Dieu, à l'amour de Jésus qui s'est donné pour toi et pour moi? Jésus, première chose, ça veut dire Dieu qui sauve. Jésus est venu pour sauver. La deuxième chose que l'on voit, c'est Jésus, il est appelé le roi. Nous avons vu une étoile, l'étoile du roi. L'étoile du roi. La Bible nous enseigne encore quelque chose d'autre, c'est qu'au-delà d'être un simple sauveur, il est le roi des rois. Il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus haute autorité que Jésus. Il a reçu toute autorité, sur toute autorité. Il est le plus haut, il est le plus fort, le plus puissant. Jésus est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. La Bible nous dit encore, dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17, « Il est le créateur de la terre. Tout a été fait pour lui, en lui et par lui. » Jésus, ce n'est pas qu'un sauveur envoyé, créé par Dieu. Il n'a pas été créé. Il est de toute éternité. Il a été envoyé, lui, le roi des rois, pour toi et pour moi. Est-ce que dans notre vie, on réalise que Jésus est descendu du ciel? Il n'est pas venu de l'enfer ou d'un endroit où il ne fait pas bon vivre. Il était dans le lieu le plus merveilleux qui existe de tout l'univers. Il était dans le ciel. Dans le ciel, Jésus, puisqu'il est roi des rois, il avait tous les anges. Imaginez-vous les anges. des myriades d'anges. Je ne sais pas combien ça fait des myriades, mais ça doit en faire un paquet. Des myriades d'anges qui étaient à ses pieds, prosternés devant lui, et qui criaient devant lui, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel !» Ils criaient, ils chantaient la gloire de Jésus. Tous ces anges étaient devant lui et chantaient sa puissance, sa grandeur, sa beauté. Tous ces anges lui étaient soumis volontairement dans le ciel. Un endroit merveilleux, puisqu'il était de toute éternité le roi des rois. Lorsque Jésus était sur la terre, il nous est même parlé de moments où Jésus allait au travers des personnes qui étaient tourmentées par des démons, et les démons poussaient cette personne à se jeter à ses pieds. Et les démons suppliaient Jésus de ne pas les tourmenter avant l'heure. Quelque chose d'impressionnant, on ne comprend pas tout, mais même les démons étaient soumis à Jésus, savaient qu'il avait reçu toute autorité du Père. Jésus, il était dans un endroit merveilleux, il a quitté ce ciel de gloire pour descendre sur la terre par amour, pour toi et pour moi, parce qu'il nous aime. Jésus, c'est le sauveur, mais c'est aussi le roi. Il est le roi. Et il a quitté son ciel, où tout lui était soumis, pour descendre sur la terre, s'humilier, prendre une forme humaine pour mourir pour nous et pour nous sauver. Tout ça par amour. Troisièmement, il est dit Jésus, son nom veut dire le sauveur, le roi, mais aussi on l'a vu, il est le chef. La prophétie annonçait qu'il allait sortir de Judas un chef. Jésus est peut-être le roi de l'univers et c'est très bien, mais est-ce qu'il est ton chef à toi? C'est une question. Jésus le chef, on a compris qu'il est le créateur, que tout a été créé, que si je vis et si tu vis, c'est parce que Jésus l'a bien voulu. Mais est-ce qu'il est ton chef dans ta vie? Est-ce qu'il est ton guide? Est-ce qu'il est celui qu'il choisit à ta place, qui est sur le trône de ton cœur? Ou est-ce que c'est encore vous, toi qui fait tes choix, qui fait ta vie comme tu veux? Ou est-ce que tu as choisi de laisser faire Jésus dans ta vie, de reconnaître son autorité et de te soumettre à son autorité? Lui qui est venu par amour, es-tu prêt à te soumettre à son autorité? La Bible nous dit en plus qu'il ne veut que du bien, que du bien. Il veut notre bien, puisqu'il est écrit qu'il est le roi des rois, mais aussi le seigneur des seigneurs. Et un seigneur, c'est celui qui décide, celui qui régit, celui qui choisit. Il est le seigneur des seigneurs. Je lui dois l'obéissance. Je lui dois l'obéissance. Et quelqu'un pourra dire, non, moi, j'ai pas besoin de chef. Moi, je me dirige très bien comme je veux, tout ça. J'aimerais vous dire quelques textes. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Il est le chef de tout homme. C'est-à-dire qu'il a l'autorité. Néanmoins, il nous laisse le choix de se soumettre ou de lui résister, de lui obéir ou de n'en faire qu'à notre tête, de lui faire confiance ou bien de choisir son propre chemin. Colossiens 2:10 dit « Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité. » Le fait que je ne me soumette pas à lui ne veut pas dire qu'il n'est pas le chef. Le fait que je ne me soumette pas à lui veut dire que je ne veux pas de sa bénédiction et que je crois que je n'ai pas besoin de lui. C'est une grosse erreur. Les conséquences, c'est qu'il ne pourra rien faire pour nous pour l'éternité. On sera encore là, loin de lui. Hébreux 12:2 dit « Jésus est le chef et le consommateur de la foi. » C'est lui qui donne la foi par sa parole. Et c'est lui qui utilise la foi pour nous donner d'être bien conduits dans notre vie vers les bons chemins qui vont pourvoir à notre épanouissement. Il est le chef et le consommateur de la foi. Quand il voit que quelqu'un est prêt à croire en lui, il va aller vers lui et va dire « Tu vois, cette confiance que tu me donnes, je vais l'utiliser pour t'emmener au bon endroit, pour t'avertir quand il y a des dangers, quand il y a un mauvais chemin qui va te perdre ou qui va t'emmener dans des échecs dans ta vie. Moi, je vais t'avertir et tu vas pouvoir faire les bons choix. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Je veillerai sur toi. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, il est précisé quelque chose de très important, c'est au verset 6. Il sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Jésus est le chef qui paîtra. Qui sait ce que veut dire ce mot paîtra? c'est pas le prénom Petra, mais le fait de paître, le verbe paître. Qui sait ce que c'est que ce verbe paître ? À quel métier ça se rapproche ? Ça s'attribue. Quelqu'un qui fait paître un troupeau, et c'est un berger. Voyez le chef qui veut être Jésus ? Il veut pas être un chef despote, autoritaire, un dictateur dans notre vie. Il veut être comme un berger qui prend soin des brebis. Ça donne plus envie d'être soumis à lui. Jésus, il dira dans Jean chapitre 11, verset 10, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jésus a donné sa vie pour nous. Il veut être notre chef. Il veut prendre soin de nous comme un berger prend soin d'un troupeau. Et pas un berger qui fait pas gaffe, ou un berger qui dit « je regarde au rendement », mais un berger qui connaît chaque brebis par son prénom et par son nom. C'est écrit encore dans la parole de Dieu. Un berger qui voit chaque brebis et qui connaît sa vie à la perfection, qui l'a vu naître et qui la verra mourir, qui verra chaque période de sa vie, qui sera là dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments de jouissance, de réussite comme dans les moments d'épreuve. Jésus veut être le bon berger dans ta vie. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et dans cette période de crise, il fait bon savoir que quelqu'un veut veiller sur nous au point qu'on ne manquera de rien. Pour nous, pour notre conjoint, notre conjointe, et pour nos enfants. Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut être notre chef pour nous bénir, pas pour nous embêter. Jésus le chef. Et puis quatrièmement, Jésus le Christ. Il est dit un petit peu plus loin, il devait naître le Christ. C'est plutôt un peu plus tôt, c'est verset 4, le Christ. Jésus, le Christ. Savez-vous ce que ça veut dire, Christ ? On fait un peu d'études ce soir. Le mot Christ. Christ, c'est le mot grec. Messie, c'est le mot hébreu. Et ça veut dire la même chose. Qui c'est ? Pardon ? C'est loin. Pas loin dans lointain, mais le loin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le loin. C'est quoi le loin ? Loin, loin de l'Éternel, celui qui est loin, c'est celui qui reçoit l'Esprit de Dieu. Celui qui reçoit l'approbation de Dieu. Celui qui est baigné dans la présence de Dieu. Et Jésus, il n'est pas un des loin, ou il n'est pas un loin, il est loin. En anglais, on dirait il est the loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est le loin par excellence. Le plus loin et plus loin que lui, il n'y a pas. Jésus est celui qui était le plus baigné dans la présence du Père. À aucun moment dans sa vie, jusqu'avant sa mort, jusqu'au moment où il a été sur la croix, Jésus n'a été séparé du Père, séparé de Dieu, séparé de l'Esprit de Dieu et de la présence de Dieu, séparé même de l'approbation de Dieu. À aucun moment, aucune seconde de sa vie, de sa naissance jusqu'à la croix, Jésus n'a été désapprouvé de Dieu, du Père. À tout moment, il a voulu et il a fait la volonté du Père. À tout moment, avant de prendre quelconque décision, avant de dire une quelconque parole, Jésus prenait le temps de vérifier si ce qu'il allait faire ou même ce qu'il voulait faire était la volonté du Père. Et il dira, je n'ai rien dit que le Père ne m'ait dit de dire. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais j'ai dit ce que le Père m'a demandé de dire. Je n'ai rien fait de moi-même, mais j'ai fait ce que j'ai vu faire au Père, c'est-à-dire ce que Dieu m'a dit de faire. Ce que le Père m'a dit de faire. Ce que l'autorité suprême m'a dit de faire, puisqu'il est dit plus tard que Dieu est le chef de Christ. Jésus s'est soumis à la perfection à Dieu. Lui, il n'a jamais péché. On est tous pareils, on a tous menti, on a tous commis une erreur, on a tous péché à un moment ou l'autre. On a tous méprisé l'autorité de Dieu à un moment ou à un autre. On est tous répréhensibles devant Dieu. On ne mérite pas le ciel. Mais lui, Jésus, n'a jamais commis une seule erreur. Jésus, il est loin par excellence. Il a eu la probation parfaite du Père, au point qu'à chaque fois qu'il priait, il était exaucé à tous les coups, 100%. Il va dire, parce que je fais la volonté du Père. Jésus a toujours été exaucé dans ses prières, parce qu'il n'a fait que la volonté du Père. Et de savoir que Jésus a été approuvé de la perfection, ça nous a encore montré dans tous les miracles qu'il a fait. Jésus était loin, parce qu'il, on le voit aussi, parce qu'il a fait des miracles, il a guéri, il a délivré les personnes possédées, il avait une autorité suprême sur la terre. Tout ce qu'il disait, ça se passait. Il disait aux démons de partir, il partait. Il disait à quelqu'un d'être guéri, il était guéri. Il demandait quoi que ce soit, ça lui était accordé. Il a même demandé qu'un homme ressuscite, Lazare. Et avant même que le mort sorte du tombeau, il dirait je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'exauces toujours. Jésus, il est le Christ, il est loin de l'Éternel. Le seul qui pouvait être approuvé comme cela de la part du Père. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. Jésus est encore le Christ. Il est encore approuvé de Dieu. Et si je passe par Jésus, je dis, Jésus, aie pitié de moi, guéris-moi. Je crois en toi. Bien sûr, il faut croire en lui. Sinon, ça ne sert à rien. Mais si je crois en Jésus, qu'il est loin, qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, l'envoyé de Dieu pour moi. Et que je dis, Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi dans ma situation. Sauve-moi, guéris-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Accorde-moi quelque chose, je t'en supplie. Je ne le mérite pas, mais tu l'as mérité pour moi et je crois en toi. Alors, Jésus, lui est exaucé. Et il est dit qu'il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il prie pour nous. Et lui, il est toujours exaucé. Mais il faut prier en croyant en lui, en ayant confiance. Parce qu'il est le Sauveur, il est le Roi, il est le Chef, il est le Messie. Il est loin, celui qui est toujours approuvé. Et comment moi je peux être loin? Parce que la Bible dit qu'on peut être loin de l'Éternel. On peut nous aussi recevoir l'onction de Dieu. Comment? Le seul moyen de recevoir l'approbation de Dieu, j'ai dit, c'est pas par nos efforts. Nous, on est tous répréhensibles. On est tous pécheurs. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Quand je crois en Jésus, il est dit que Jésus, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et quand je crois en Jésus, alors Jésus peut intercéder pour moi. Jésus peut agir pour moi, en ma faveur. Parce que lui, il est mort à la croix pour moi. Il s'est donné pour moi. Il a payé pour mes péchés. Il s'est chargé de mes péchés. Afin que la condamnation qui allait tomber sur mes péchés et sur moi, tombe sur lui au lieu de sur moi. Il a pris mes péchés pour détourner la colère de Dieu. La sanction que méritaient mes péchés pour qu'elle tombe sur lui et que moi je sois sauvé. Et que je puisse, simplement par la foi en Jésus, en croyant dans son sacrifice, être à mon tour approuvé de Dieu, être baigné dans sa présence, être agréable à Dieu par un seul moyen, par le moyen de la foi. Et tout ça, gratuitement par grâce, parce que je ne mérite rien et je ne mériterai jamais rien. Même ma foi n'est pas un mérite, le chef, celui qui la donne, c'est Jésus par sa parole. Et aujourd'hui, si quelqu'un croit en Jésus, si quelqu'un croit en son œuvre, il peut recevoir l'approbation de Dieu. Et lorsqu'il dit, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, parce que Jésus est mort à la croix, Dieu peut lui pardonner de ses péchés. Et le sang de Jésus qui a coulé sur la croix coule aussi sur nos cœurs quand on croit en lui et nous lave de tout péché. Et quelqu'un ce soir peut être lavé de tous ses péchés, pas 10%, ni 50, ni 90, ni 99, mais 100% de ses péchés, simplement parce que Jésus a été 100% loin, 100% le Christ, 100% parfait, 100% approuvé. Du début à la fin. Au point que même s'il est mort pour nous, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Jésus est vivant, c'est pour ça qu'il est encore le Christ, encore loin de l'Éternel. Comment croire? Eh bien, c'est le cinquième attribut ou moyen dont on a appelé Jésus. Eh bien, c'est le petit enfant. Vous avez vu que Jésus, il est dit, voilà, allez chercher le petit enfant. Verset 9, par exemple. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Comment croire? Mais il suffit d'être comme un enfant. Il ne faut pas raisonner, il ne faut pas chercher à raisonner, à être plus intelligent que Dieu. Il faut dire, Seigneur, tu as choisi ce moyen-là pour me sauver? Je te fais confiance. Et si on réfléchit 2 minutes, on voit que tout le reste, ça ne tient pas. Si on avait été sauvé par l'argent, Dieu aurait été injuste, parce que les pauvres n'auraient pas pu être sauvés. Si on aurait été sauvé par nos efforts physiques, Dieu aurait été injuste, parce que l'handicapé n'aurait pas pu se sauver. Si on avait été sauvé, eh bien, je ne sais pas moi, par nos prières, alors le muet n'aurait pas pu être sauvé. Ou alors, je ne sais pas, quelqu'un handicapé qui a du mal à penser n'aurait pas pu être sauvé, etc. etc. Vous voyez, le moyen le plus parfait et le seul moyen que Dieu a donné, c'est son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé pour nous sauver. Et il nous faut être comme des petits enfants. Je vous lis un texte. Jésus parle et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous savez qu'un enfant, quand on lui dit quelque chose, il le croit. Vous pouvez même lui dire quelquefois des bêtises, il le croira quand même. Mais ne nous amusons pas à mentir aux enfants, parce qu'à force de mentir, ils croiront plus en rien. Et si les parents, ceux qu'ils croient parfaits, ils se mettent à lui mentir, ils vont se dire, ben tiens, je peux mentir. Et il y aura des conséquences, ils ne croiront plus en rien. Ne dites pas aux enfants, le Père Noël, il existe. C'est un mensonge. Je dis quelque chose de sérieux là. Si vous dites à un enfant, le Père Noël, il existe, que vous lui faites croire, que vous lui mentez sur ça, ne vous étonnez pas si en retour, il vous mente. Vous comprenez? Ça va jusque là. Mais soyez comme des petits enfants. Croyez, recevez l'amour de Dieu tel qu'il est. Certains vous diront qu'il faut, comme une balance, compenser les mauvaises œuvres par des bonnes œuvres. C'est pas vrai. Je vous l'ai dit, ça serait pas juste. Et même ces personnes qui vous disent ça vous diront, il n'y a aucun moyen d'être sûr d'être sauvé. On verra. Moi, je n'ai pas envie de voir au dernier moment, j'ai envie de me préparer sur la terre. Parce que Dieu a déjà tout accompli pour me sauver. Il a envoyé Jésus-Christ. Parce qu'il m'aime. Dieu nous aime, il ne joue pas avec notre vie. Il ne dit pas, oh ben tu verras plus tard, c'est un coup de poker. Il dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse-moi rentrer dans ton cœur. Je frappe à la porte, dira Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je ferai ma demeure chez lui. Amen. Croire, c'est recevoir. Croire, c'est recevoir comme un enfant la parole de Christ Jésus. C'est recevoir l'enseignement de Jésus-Christ. C'est recevoir l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus est venu pour me sauver. Il nous aime. Il nous a sauvés par sa mort à la croix, en portant tous nos péchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour attirer sur lui la colère que nous méritions. Et dans toutes ces paroles, on voit encore, jusque dans ce cinquième point, qu'il a été appelé le petit enfant, que Jésus a donné l'exemple. Il n'a pas dit « faites ceci, mais moi je fais autre chose ». Dans tout ce que Jésus a dit, tout, du début à la fin, Jésus a donné l'exemple. Il n'a jamais dit de faire quelque chose que lui-même n'ait pas fait. Sauf, repentez-vous, lui, il n'avait pas besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit, repentez-vous, parce que nous, on en avait besoin. Mais lui, il n'en avait pas besoin. Il allait même jusqu'à porter nos péchés. Et la Bible nous dit qu'il a été fait péché. Quand j'ai lu ça, j'ai cru qu'il y avait une erreur dans la Bible. Jésus a été fait péché. Ça veut dire qu'il a carrément pris ton péché, mon péché, sur lui. Comme quelqu'un qui dira, eh oh! Ne le vise pas à lui, vise-moi à moi. Tire sur moi, je préfère que tu tires sur moi, je préfère mourir à moi, mais laisse-le tranquille. Laisse-la tranquille. Jésus a tiré sur lui la colère que méritaient nos péchés. Il a été fait péché parce qu'il nous aime. Et il veut, il voulait nous sauver. Amen. Dans toutes les paroles, Jésus a été un exemple pour que nous le suivions. Et la dernière question que je poserai, c'est veux-tu suivre Jésus? Veux-tu donner ta vie à Jésus? Veut-il qu'il soit le roi, le chef, le Christ, le sauveur, celui qui pourvoit tes besoins, celui qui dirige ta vie? Veux-tu qu'il soit celui qui change ton cœur en cœur d'un petit enfant, un cœur qui croit, un cœur qui dépend de ses parents, qui dépend du Père, qui dépend du Christ? Veux-tu de Jésus comme sauveur et veux-tu marcher comme lui, il a marché? À la fin, il est dit que ces mages ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or nous parle de la sainteté. Veux-tu marcher dans la volonté de Dieu, dans la sainteté, renoncer au péché? L'encens nous parle, quand on encense quelqu'un, c'est quand on dit des louanges de quelqu'un. Veux-tu être quelqu'un qui dit du bien de Dieu et qui dit « il m'a sauvé ». J'ai connu Jésus parce qu'il m'a sauvé, il m'a donné sa paix quand je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Pardon parce qu'il est mort pour moi. Et la myrrhe, c'est je m'offre à lui, je me donne tout entier pour faire sa volonté. Je me donne, je m'offre, je veux que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur à Dieu et à Jésus-Christ. Veux-tu suivre Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, je te dis merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci parce que dans ta parole, tout est écrit pour que nous comprenions l'évangile, la bonne nouvelle, quel amour tu as aimé, de quel amour tu as aimé le monde et tu nous as aimé, nous, particulièrement et à chacun. Je veux te dire, Seigneur, merci d'avoir voulu être notre bon berger, Jésus. Tu l'es pour moi, tu l'es pour beaucoup. Peut-être quelqu'un ne t'a pas encore comme berger dans sa vie. Touche-le, sauve-le ce soir. Montre-lui l'importance de te laisser guider notre vie parce que tu veux nous emmener dans de verts pâturages, dans un endroit où on est épanoui. Je suis heureux d'être à toi, Seigneur, et je veux que cette joie soit partagée à toute l'humanité. Merci d'avoir amené ce soir tous ceux qui avaient besoin d'entendre ta parole. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen.